Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, elle vit un conte de fées, mais un conte où la fée aurait changé d'apparence. Après le succès du film Forte sur Amazon, Mela Bédia participe encore à déconstruire les clichés. Elle assure la voix française d'un film d'animation coréen qui réécrit à sa façon Blanche-Neige et les Sept Nains. La comédienne humoriste Mela Bédia est l'invitée de Culture Média d'ici 10 minutes, 12 à tout casser. Les Indispensables, Laure d'Autriche vient nous présenter un livre consacré à l'étymologie, l'origine des mots. Pour survivre au chaos. Et puis première page, vous découvrez ce matin celle du prochain livre de François Beaune, Quelle amitié Gwen, apparaître chez Albin Michel. Bienvenue dans cette deuxième heure de Culture Média. Le journal de la culture ne va vraiment pas tarder. Belle matinée à vous sur Europe 1. Et confirmation immédiate, bonjour Damien Cabrespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, l'adaptation d'un best-seller Ben Harper en duo, un cinéma en pause, des talents inouïs et une chanteuse en deux lettres.
On attaque avec le livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui va être adapté au cinéma.
Oui, les producteurs Carole Lambert et Marc Missonnier l'ont annoncé hier. Le livre qui a déclenché toute l'affaire Gabrielle Matzneff va être transposé sur grand écran. Alors, Le consentement, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est ce témoignage autobiographique qui raconte l'emprise d'un écrivain célèbre, âgé de 50 ans à l'époque, sur une jeune fille de 13 ans. Lors de sa parution en janvier dernier, le livre avait déclenché une tempête dans le milieu littéraire. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans visant Gabrielle Matzneff. Et l'affaire a également fait parler d'elle ces derniers jours avec la démission de Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris, qui avait été auditionné en tant que témoin dans cette histoire. Alors les producteurs du film précisent dans leur communiqué que ce projet cinématographique retracera la triple prédation qu'a connue Vanessa Springora, une prédation sexuelle, littéraire et psychique. Il va également questionner les dérives d'une époque et la complaisance d'un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. Le long métrage sera réalisé par Vanessa Philo, à qui l'on doit le film Gueule d'Ange avec Marion Cotillard, qu'on avait vu dans la section Un certain regard à Cannes en 2018. Et pour mémoire, Le consentement en version livre s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires depuis sa sortie en janvier dernier. Il est sur le point d'être traduit dans une vingtaine de langues.
Autre chose, le chanteur Ben Harper vient de sortir un nouveau single.
Ben Harper, c'est ce chanteur américain qui mélange délicieusement la musique folk, le blues, le gospel et le rock et qui avait signé il y a quelques temps maintenant une sublime chanson. C'était en 1994, souvenez-vous. Waiting on an angel, one to carry me home. Waiting on an angel, une très très belle chanson. Et donc aujourd'hui, Ben Harper revient en duo avec la chanteuse Rhiannon Giddens. Ensemble, ils ont décidé de reprendre un titre du chanteur Nick Drake, une figure incontournable de la musique folk disparue en 1974. Et la chanson s'intitule Black Eyed Dog. Black Eyed Dog, he called at my door. Black Eyed Dog, he called. Alors, on vous en passe ici un tout petit extrait.
On peut tout passer si vous voulez, non?
Non, on n'a pas le temps. Je vous propose plutôt d'aller sur la playlist de Culture Média sur Spotify. Et je vous promets 2 minutes 49 de bonheur.
Voilà, c'est vraiment l'occasion. Hein, si vous voulez écouter ce morceau-là qui s'écoute quand même dans son intégralité.
Qui est sublime.
À Paris, Damien, un cinéma emblématique baisse le rideau temporairement.
Et ce cinéma, c'est le Grand Rex, un incontournable pour les cinéphiles parisiens avec sa façade monumentale, ses 2800 fauteuils et ses avant-premières toujours glamour et somptueuses. Oui, mais voilà, avec la crise sanitaire, le Grand Rex est à bout de souffle. Le propriétaire des lieux a donc décidé de fermer l'établissement du 3 au 26 août prochain. C'est une première dans l'histoire de ce cinéma. Et la raison, vous en parliez il y a quelques jours, Pascal, dans l'émission, les cinémas français traversent en ce moment une crise sans précédent. Depuis la fin du confinement, ils peinent à rameuter les foules, la faune notamment au manque de blockbusters estivaux. 10% des cinémas de notre territoire ont décidé de ne pas rouvrir leurs portes. Et de plus en plus, des exploitants décident de faire une pause en attendant des jours meilleurs. Mais le Grand Rex reste optimiste. Sa direction compte notamment sur Tenet, le fameux film de Christopher Nolan. La sortie a enfin été annoncée hier par la Warner. Ce sera donc le 26 août, alléluia. Un marathon Harry Potter devrait par ailleurs être organisé au Grand Rex à partir du 29 août. De quoi galvaniser les fans de la saga et ramener peut-être un peu de public dans les salles.
Mmh. Et Tenet sortira donc en Europe avant les États-Unis.
Avant les États-Unis, exactement.
À Bourges, les jeunes talents français auront droit à leur printemps.
Oui, alors ce sera avec un peu de retard et en version compactée. En septembre prochain et durant 3 jours, les jeunes talents de la scène musicale française vont participer aux Inouïs du printemps, une branche du festival qui met en valeur les nouveaux artistes pour les faire connaître au plus grand nombre. Donc 34 futurs grands vont venir jouer sur la scène du Palais d'Oron. Et parmi eux, il y aura PR2B, une chanteuse qui fait de plus en plus parler d'elle en ce moment avec son titre La Dolce Vita. Écoutez. Et pour la clôture, les chanteuses Aloïs Sauvage et Pomme, récente révélation des Victoires de la musique, viendront donner un concert ensemble. Alors Aloïs Sauvage avait elle-même été mise en avant par le Festival des Inouïs, un marqueur dans sa jeune carrière, elle nous l'explique.
Ça m'a aidé par la suite à avoir d'autres opportunités, à avoir d'autres regards curieux sur mon projet, parce que j'étais passée aux Inouïs de Bourges à un moment donné où je commençais à peine et j'étais là en train de me faire découvrir, disons. Et les Inuits de Bourges, pour ça, ça a été vraiment fondateur dans la suite de mon jeune parcours, quoi.
Donc si vous voulez connaître les futures stars de demain, c'est donc ici que ça se passe. On note bien la date dans son agenda. Les Inouïs se dérouleront du 16 au 18 septembre prochain à Bourges. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
On termine avec le retour de la chanteuse LP,
vous la connaissez sans aucun doute pour ce tube qui a été certifié disque de diamant, qui a été écouté plus de 2 milliards de fois sur les plateformes de streaming et qui a été numéro 1 quand même dans 18 pays lors de sa sortie en 2017. Auteur, compositeur, interprète, LP a écrit des chansons pour Cher, Rihanna, Céline Dion ou encore Christina Aguilera. Mais aujourd'hui, elle revient donc avec son nouveau single, Rien qu'à elle. Ce titre s'intitule The Ones That You Love. Et donc, je vous propose de terminer ce journal en écoutant un petit extrait.
Ouais, ça a l'air de pas mal dégouliner quand même. Hein.
Ouais, mais c'est joli.
Voilà, faut ce qu'il faut. The One That You Love. Damien Caprespin, chaque jour, le journal de la culture. À demain, Damien.
À demain.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et pourquoi pas? Pourquoi pas continuer à pulvériser les codes? Monter sur scène avec un one-woman show qui s'appelle Fat and Furious, parler de tout, du surpoids, de la religion, de la virginité, cartonner pendant le confinement sur Amazon avec un film qui s'appelle Forte, jouer au football au PSG et supporter l'OM, prêter sa voix quand on s'appelle Mela, une Blanche-Neige revisitée. Hein, c'est vrai, pourquoi ne pas continuer à oser par le rire et surtout par le rire sur soi-même. Bonjour Mela Bédia.
Bonjour Pascal.
Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Pulvériser les codes, c'est pas rien?
Je sais pas trop. Je suis contente, hein. Si c'est mon rôle, j'y vais. Hein. S'il faut faire ça, ouais.
Ouais. Là, vous êtes à la sulfateuse. Est-ce que vous voyez les choses comme ça aussi, ne rien vous interdire? Est-ce que vous en êtes là, arriver comme vous êtes, ne pas vous déguiser et cartonner?
Cartonner, ça c'est pas ce que j'avais prévu, donc ça c'est plutôt cool et je suis contente. Mais à la base, ouais, j'aime bien rien m'interdire, j'aime bien être moi-même et être sincère. On m'a toujours dit, si t'es toi-même, tu vas plaire aux gens, pas à tout le monde, mais en tout cas, si t'es honnête et sincère avec toi-même et avec les autres, forcément, tu seras soit touchante, soit il y aura quelque chose qui se passera de positif derrière, quoi.
Mais ça a pris du temps ou alors vous étiez comme ça à prendre ou à laisser?
Non, ça a pris un peu de temps. Je sais que moi, je voulais être humoriste. J'ai pas du tout confiance en moi et puis j'avais un grand frère déjà humoriste. J'avais des bonnes notes à l'école, donc je l'ai trahi. Je l'ai pas écouté. Lui voulait que je fasse une prépa HEC.
Ramzy.
Ouais, Ramzy, d'Eric et Ramzy.
Ouais, et voilà, Ramzy, d'Eric et Ramzy. Donc Eric, c'est votre oncle, c'est ça?
À quelque chose près.
On
oui.
sait plus trop. Puisque vous en parlez, bah allons-y. Ramzy, il voulait pas de ça pour
vous. Non, il voulait absolument pas. En fait, il était protecteur, donc je lui en veux pas. Sur le moment, j'étais hyper triste parce que j'étais toute jeune et je venais lui expliquer que j'avais une passion et que j'avais envie de monter sur scène et que je voulais faire comme lui. Sauf que lui, il l'a mal pris, il m'a bloqué, il m'a mis des bâtons dans les roues. Il m'a fait une petite misère de 2-3 ans dont je me serais bien passé, mais c'est pas grave.
Ça s'est passé comme ça.
Ouais. Hein.
Vous avez 29 ans, Mela Bédia, vous êtes comédienne, humoriste et vous tracez volontiers cet autoportrait. Moi, dites-vous, j'ai un problème, je suis une femme en surpoids, myope, arabe, musulmane et vierge. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'être myope?
Franchement, je crois que c'est le plus relou.
Sérieux.
Non, mais c'est-à-dire que vraiment, tous les matins, je me réveille, si je ne trouve pas mes lunettes sur ma table de chevet, je ne vois pas.
Ouais.
On se rend pas compte, mais c'est un vrai problème, les myopes en Europe.
C'est vrai. Mais vous pouvez vous faire opérer, vous savez.
Oui, je sais, mais je suis hypochondriaque aussi. Ah oui. Dans tous les quotas, j'ai oublié hypochondriaque, donc j'ai peur.
Ça compte beaucoup dans le portrait.
Énormément.
Et il y a quoi d'autre? Bon, il est déjà pas mal.
De mauvaise foi. Bon, après, j'en ai mille. J'ai plein de tares. Franchement.
Et c'est votre façon de faire, j'ai l'impression.
Je préfère direct annoncer la couleur. Vous n'avez pas de surprise.
Vous allez nous raconter votre parcours, mais tout de suite, votre actualité. Ce film d'animation qui sort mercredi, Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains, film du coréen Hong Song-ho.
C'est hyper bien dit.
C'est vrai ?
Ouais.
Répétez. Une sorte du parodie du célèbre conte. Et pour la voix française de Blanche-Neige, c'est vous. On va tout de suite écouter un extrait. Vous êtes devant le miroir.
Est-ce que c'est vraiment moi dans le miroir? Vous voyez la même chose?
Tu es magnifique, Fräulein. Tu as l'air d'un ange.
Ah oui? Ah, c'est quand même pas...
Excuse-moi, mais comment tu t'appelles?
Oh, je m'appelle Bla...
Blatt?
Non. Moi, mon nom, c'est... Rouge, Souliers Rouges.
Est-ce que ça vous a étonné qu'on vous propose quand même la voix française de Blanche-Neige? Vous parlez vide, vous parlez cash, vous avez plutôt une voix...
Malboro Light. C'est une voix, vraiment, elle était sponsorisée par Philippe Maurice.
C'est ça,
et ouais. Jeanne Moreau. Il y a vraiment, je suis en mix, mais... Ouais, moi, je vous jure que c'est vrai, quand la productrice m'a contactée pour faire une voix dans Blanche-Neige, elle a pas vraiment... Elle avait pas précisé. Elle m'a donné le lien, j'ai regardé, j'ai adoré. Et je lui ai dit, c'est super de penser à moi, mais c'est pour quel rôle? Moi, je pensais que j'allais faire un invers. Vraiment. Et elle m'a dit, c'est pour Blanche-Neige. Et j'ai dit, waouh, cool, je crois que 2020, on est en train d'avancer, quoi.
Et Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est votre type de beauté? Vous connaissez forcément?
Ah ouais, moi, j'ai été bercée à tous les Walt Disney, de base, vraiment.
Et alors, ça vous parlait?
Ah ouais, complètement. Ouais. Et puis je l'ai trouvé hyper moderne, un peu dans la veine de ces nouveaux dessins animés, un peu comme Shrek, qui sont dessinés aux enfants, mais aussi aux adultes, qui sont parfois subtils, avec un humour et des références un peu plus ciblées pour les adultes. C'est là où j'ai trouvé que le conte était très moderne, et puis de raconter ce que ça raconte sur une Blanche-Neige, avec tout ce truc de l'acceptation de soi, l'estime de soi, et tout ça, je trouvais que c'était intéressant de le donner aux enfants, ça.
Oui, parce que là, il y a, dans cette nouvelle version, c'est une espèce de grand mix, quand même. Alors, les Blanche-Neige et Souliers Rouges et les Sept Nains, des princes transformés en nains qui aident une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Bon, il y a une, je sais pas si morale, c'est le bon mot, mais...
Si.
Si ? Alors, c'est quoi la morale ?
La morale, c'est qu'il faut... Il faut avoir confiance en soi et pas et puis essayer de s'accepter. Et puis ça ressemble vachement à ce que j'avais fait dans Ford. Donc pour moi, c'était une bonne continuité en termes de propos.
C'est la même idée, c'est-à-dire
complètement.
Quelque chose qui a priori n'est pas fait pour vous.
C'est ça.
Et vous y allez.
Et ouais, exactement. C'est que comme ça qu'on casse les codes, j'imagine. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas, c'est ma petite méthode. Je vous dirai dans 10 ans si ça a marché. Mais
d'accord.
Pour l'instant, j'essaie comme ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous étonne le plus, pour l'instant, dans le succès que vous commencez à rencontrer depuis quelques années ?
C'est qu'il y a des gens qui viennent me voir en spectacle. Déjà, moi, ça m'a toujours choqué que les gens viennent et achètent un billet, que le lundi, ils prévoient d'aller voir une humoriste qui est moi, un samedi, qu'ils prennent une nounou, qu'ils aillent manger avant. Enfin, tout ça, d'être dans le programme des gens, ça m'a toujours ému.
On va refaire le match, comme on dit au PSG. La Média est dans Culture Média ce matin. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Avec Mela Bédia ce matin, comédienne, humoriste de 29 ans, en pleine bourre. C'est joli, non, comme expression?
En pleine bourre, ouais. Hein, je mettrai ça, ce serait mon épitaphe. A été en pleine bourre.
Vous avez des nouvelles de Mbappé ou...
Mbappé, non, moi je suis plus l'OM. Mais, je crois qu'il va se rétablir vite, il est jeune.
Ouais, en torse quand même.
Ouais, je sais, c'est quand même pas de chance. Après, moi qui suis pour l'OM, c'est quand même fou qu'à chaque fois qu'ils aient une chance, à peu près une demi-chance de... gagner la Champions League, soit c'est Neymar, soit c'est Mbappé. Il faut qu'ils arrêtent de... Enfin bon, je ne vais pas m'énerver parce que moi je suis pour l'OM, ça ne me concerne pas en vrai.
Elle commence comme ça votre histoire, une carrière de footballeuse stoppée net, et vous étiez au PSG, ça marchait bien. Quel poste?
Milieu offensif.
Milieu offensif, c'est numéro 10?
C'est à l'époque où j'avais du cardio, c'était Zidane quoi, c'était le numéro 10.
D'accord. Pourquoi ça s'arrête?
Parce que ma maman me dit... parce qu'ils viennent faire une détection et il y a des formateurs de Cleveland qui me disent « faut venir à Cleveland, on va essayer de faire un stage et peut-être que vous partez en centre de formation à Cleveland aux États-Unis ». Et quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle m'a dit non.
Pas question ?
Bah, hors de question.
Pourquoi elle avait peur pour vous?
Bah, trop peur, ma mère. Déjà, quand j'y allais avec ma sœur, on prenait le RER, elle nous appelait toutes les 10 minutes. Donc, quand je lui ai dit Cleveland, elle a regardé sur la map monde, elle s'est dit, bah, tu vas rester à Bois-Colombes. Ça va pas.
Et donc, ça vous a passé l'envie, du coup?
Ouais, et puis de toute façon, je n'avais pas d'autre choix, j'étais une enfant. Donc, si ma mère, elle me dit non, bah, c'était non, quoi. J'étais obéissante.
Mais dans une autre vie, si ça t'était passé autrement, bah.
Ah, j'y serais allée. Et souvent, Ramzy, quand on regardait le football féminin et quand on a vu la Coupe du Monde, la dernière, là, féminine, il me disait, tu te rends compte, normalement, tu aurais été dans cette Coupe du Monde-là. Ouais. Normalement, c'était ça, ta vie.
Ouais, ouais, incroyable. Pour la suite des événements, il faut passer par la boulette. Diams, évidemment.
Ça me fait je suis très contente qu'on passe du Diams sur Europe 1.
Bah pourquoi pas?
Ah bah je suis contente. Mm-hmm. Comme ça, elle touche un peu de sa sème, je suis très contente.
Oui, alors là, on a passé 10 secondes. La rappeuse portée disparue, sur scène en tout cas. Au passage, vous avez des nouvelles?
Ouais, elle va très bien. C'est pour ça, portée disparue? Non, elle va très bien, elle est sur les réseaux.
Sur la scène.
Ah oui, sur la scène, ouais.
C'est vrai, c'est dommage.
Sur la scène, c'est vrai. Mais elle continue d'écrire et elle a sorti deux bouquins qui sont d'ailleurs super. Et elle continue d'écrire, elle fait plein d'autres choses. C'est une mère de famille épanouie, contente. Moi, je parlais avec elle, elle va très très bien.
Alors, on revient à l'époque, hein, parce que là, on est dans le récit. Comment est-ce que vous la rencontrez, Diams, Mélanie?
Mélanie, je la rencontre un dimanche parce qu'elle venait souvent manger le couscous dominical à Gennevilliers. Avec ma grand-mère, elle adorait ma grand-mère d'ailleurs, et je vous jure que c'est vrai, il manque des merguez, et elle me dit, bon, viens, on va acheter des merguez. Et je fais le chemin avec elle, on a 5 minutes de marche, et elle me dit, tiens, t'as eu le bac avec mention, t'as 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et je lui dis, bah, je sais pas, je suis inscrite à la fac, je devais être à la fac de Nanterre, par une erreur de sectorisation, je me suis retrouvée à la Sorbonne. Bon, ça veut dire que peut-être qu'il faut que je trouve un appart Paris intramuros, je sais pas. Et elle me dit, bah non, prends-toi une année sabbatique et viens avec moi en tournée, t'aimes bien les fringues, tu feras le stylisme. Et l'habillage. Et je me dis, ah,
génial. En 5 minutes, elle propose ça.
Elle me fait tout ça sur le chemin des merguez. Je vous jure que c'est vrai. Et je me dis, ah ouais. Et en même temps, c'est vrai, je savais pas trop quoi faire à 16 ans. On sait pas, soit t'as une vocation et tu veux être médecin ou astronaute, soit t'aimes bien les langues et tu te mets en LLCE, quoi. Donc c'est tout. Et elle m'emmène, elle m'embarque avec elle pendant 2 ans et demi de tournée.
Ah, 2 ans et demi de tournée.
Sauf que moi, quand j'y vais, je suis censé repasser les t-shirts des choristes et de Diams et lui donner un briquet entre les prises et une gourde d'eau. Sauf que sur la première date, elle me dit, bah, tu vas aussi faire les premières parties.
Tout de suite, elle dit ça.
Ouais. Mais parce qu'elle avait une idée en tête, je pense. Elle savait.
Donc, faire la première partie, c'est bien, mais en faisant quoi? Vous chantez pas, donc c'est pas ça.
Non, elle m'a dit l'humour, et en même temps, j'avais rien écrit, je savais pas écrire un sketch. Donc, j'y suis allée en impro total, entre nausée et improvisation. Ça a été ça pendant 2 mois.
Mais ça s'appelle un plongeon.
Ah, bah là, c'est plus un plongeon, c'est. J'ai fait du deltaplane et ça a fonctionné, donc ça m'a mis tout de suite en confiance en fait.
Ouais, donc vous arrivez sur scène, improvisation par définition, prépare pas. Ouais. Qu'est-ce que vous racontez? Comment les gens réagissent?
J'explique que je suis là pour meubler, que je suis la styliste de Diams, que je suis pas bien payée. Enfin, j'essaie de faire des petites vannes comme ça de base. Et je me souviens que c'est pile le moment où la polémique du voile était sortie. Et moi, j'aime bien aller là où il faut pas aller. Et du coup, je me dis, c'est bien, parce que comme il y a des journalistes malveillants dans les salles, on le savait, je vais détendre l'atmosphère sur le voile et je vais faire des vannes dessus. Comme moi qui fais des vannes sur mes bourrelets pour détendre l'atmosphère, bah là, je fais pareil, mais pour Diams.
Mmh. Et là, vous tombez dedans, c'est de la drogue dure,
comme
non
Félix.
Ouais. Non, mais la scène, l'impro, tout
ouais,
ça.
Et puis c'est l'impro tout de suite qui m'a séduite, vraiment l'impro. Et c'est pour ça que j'en fais toujours autant aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est, et puis c'est Diams qui me pousse sur la scène, quoi. Symboliquement, ça raconte quelque chose aussi.
Mmh. Et voilà, c'était parti, hein, grâce à des merguez.
Tout ça, c'est une histoire de chipolata.
Hein, bah ouais, votre vocation vient des merguez ou des chipots. Hein,
exactement.
C'est comme ça. Ne quittez pas, mais là, on revient tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et nous sommes toujours avec la comédienne, humoriste et au-delà, Mela Bédia. On en était... un manque de merguez qui avait donc provoqué pour faire un raccourci votre plongée sur scène.
C'est fou.
Faut y aller quand même. Je vous rappelle que vous êtes myope.
Non, mais. C'est voyez... vrai, c'est toute l'histoire de ma vie, c'est mieux. Et je suis astigmate, mais bon, je voulais pas choquer les gens.
Ouais, ouais, d'accord. Là vous abusez, là, ouais.
Ouais là,
vous y allez sur scène, faut, je sais pas ce que ça demande, de l'inconscience peut-être.
Oui,
non
j'étais complètement. Et eh ben déjà, j'étais toute jeune, j'étais complètement inconsciente. Et puis surtout, quand Diams, à l'époque, elle te dit quelque chose, tu le fais.
Ouais.
C'est... Encore maintenant, elle me fait peur. Hein. Et pas pour les mêmes raisons que la France. C'est vraiment.
J'imagine.
Elle me fait vraiment peur. Et puis, vraiment, pour le coup, sans mentir, j'étais avec ma gourde, une serviette. Et une petite éponge pour la sueur de Mélanie Georgiades. Et elle me dit, allez, c'est maintenant. Et elle me pousse. Il n'y a vraiment pas de... Je ne pouvais pas m'enfuir, en fait.
Du coup, est-ce que c'est là que vous développez peut-être ce mécanisme, à la fois pour nous très drôle et puis surtout pour vous efficace, c'est-à-dire vous dépêcher de vous moquer de vous-même avant que les autres ne le fassent?
Bah, c'est arrivé un peu avant
un
ça.
Un peu avant.
Mmh. Ouais, à l'école. C'est vraiment à l'école que je me suis dit, j'ai eu une minute de lucidité à un moment donné dans mon enfance et je me suis dit, bon, je ne rentre pas dans les cases, je ne suis pas dans les normes, je ne rentre dans aucun moule et c'est pas grave, mais il va falloir que je me charrie avant que quelqu'un le fasse. Et à la cour de récré, c'était ce grand truc, cette grande peur de me dire, oh, y a quelqu'un qui va se moquer de moi et tout le monde va rire. Et c'est comme quand tu fais le rêve de t'es toute nue dans la cour de récré et tout le monde regarde et te pointe du doigt. Donc j'avais peur de ça.
Ouais, mais c'est arrivé quand même avant ce mécanisme de défense, pas dans les normes. Est-ce que vous avez eu à faire face à tout ce qu'on peut connaître, la moquerie, la cruauté?
Un petit peu, mais pas autant que ce que j'avais fantasmé. J'ai plus fantasmé une méchanceté de la cour d'école. Ça existait, je me suis déjà mangé des moqueries, ça a déjà été dur pour moi, j'ai déjà compris que... Bah, j'allais pas serrer le beau gosse même avant le collège, quoi, de la primaire déjà. Déjà en CE1, CE2, je voulais serrer des gars et j'étais invitée à la boum parce que j'étais la petite sœur de Ramzy. C'est arrivé pile au moment, ça m'a aidé d'être populaire grâce à mon frère.
Mmh. Et là, le succès, ça, forcément, c'est de la confiance, c'est du carburant, non?
Ça donne un peu plus de confiance, mais moi, c'est comme les messages à l'époque de l'inspecteur Gadget, que ça s'autodétruit au bout de 5-6 minutes, donc j'ai confiance en moi 10 minutes dans la journée, puis après je suis une merde. Voilà, comme ça c'est clair.
Mais alors, il faut vérifier l'étanchéité, dis donc. Je sais pas où vous étiez confinée ces dernières fois.
Alors, moi j'étais confinée à Levallois-Perret, chez ma cousine, parce que dans sa rue, elle a un hôpital. Donc, comme je suis très hypochondriaque, je suis allée me confiner en fonction de l'hôpital. Ah ouais.
Ah ouais?
Et là, je me suis calmée parce que le Covid a fait que c'était trop grave et donc ça a détendu mes peurs, mais en vrai de vrai, je suis une belle hypochondriaque. Là, j'ai un groupe sur WhatsApp de 3 médecins.
Ah ouais.
Donc et donc, toute la journée, je peux leur dire, ah, vous savez, il y a ça. Tu peux m'envoyer une ordonnance pour ma cousine au bled. Enfin voilà, j'ai vraiment un groupe de 3 bons médecins. Si quelqu'un a besoin, je suis là.
Oui, sévère quand même. Est-ce que pendant le confinement, vous imaginiez quand même que les gens, chez eux, regardaient votre film? Enfin, c'est pas votre film, mais vous l'avez coécrit et vous jouez dedans, Forte, sur Amazon. Ça vous est venu en tête?
Bah, je sais pas. En fait, j'ai comme un énorme trou noir entre le moment où on est dimanche et c'est 3 jours avant la sortie du film. Donc le film devait sortir le 18 mars. Et le moment où on a l'accord avec Amazon Prime, vraiment j'ai eu un trou noir parce que dans ma tête, j'étais en dépression.
Ouais, parce que c'est un film qui devait sortir en salle.
Ouais.
Bon, bah, de fait, ça n'a pas été
forcément
possible. Et donc, c'est vous qui avez dealé la signature
c'est
avec Amazon?
C'est ma productrice Margot Dourdan et les gens de chez Quad. C'est pas qu'elle est forte, c'est ce qu'elle a fait, ce qu'aucun producteur n'a jamais réussi à faire aujourd'hui. Bah, déjà, on a fait face à une situation qui était complètement inédite, donc il fallait trouver une solution inédite. Hein. Et ça a été un génie, parce que personne ne fait un deal en une semaine et demie. C'est impossible. Surtout qu'il y a des trucs à respecter, genre la chronologie des médias, je sais pas quoi. Moi, j'y comprenais rien. Moi, j'étais en dépression, vraiment. J'ai été sous anesthésie pendant 10 jours. Et moi, en tout cas, mon souhait le plus grand, ça a été parce qu'on avait des distributeurs géniaux, TF1 Studio et UGC, qui nous ont proposé une nouvelle date. Et moi, je voulais que le film soit tout de suite vu. En fait, je voulais qu'on zappe BFM TV et qu'on se dise, bon, bah, je vais regarder 1h30 La Grosse qui se frotte à la barre. Au moins, ça va nous détendre. On va changer les idées. C'était mon souhait le plus cher.
Ça s'appelle Forte, tel que vous venez de décrire. Hein. Vous avez fait le pitch efficace, je dirais. Objectif pole dance. Vous et Valérie Lemercier.
Tu t'entraînes tranquille. Je suis là. Je bouge pas.
Oui, enfin, alors, nourris-toi quand même parce que ça peut prendre du temps, cette histoire.
T'es abonné à pole dance attitude.
Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi?
Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas de te frotter à une barre.
On s'en fout de ton cul.
La souplesse, elle est là. Elle est là, mon ange.
Pendant 2 minutes, j'ai vu la brèche. Et j'ai kiffé.
Et on va trouver une solution pour que tu fasses un peu moins de misère, ma soeur.
Plusieurs, je sais pas combien, plusieurs millions de vues.
Ouais, on n'a pas le droit trop de dire, mais c'est plus de 4 millions.
Ah, sérieux? Du coup, vous enchaînez, hein, vous travaillez sur une série, c'est ça?
Ouais.
Est-ce qu'on peut avoir un tout petit bout de pitch, quelque chose?
C'est tout frais, complètement frais. C'est-à-dire que là, en quittant ce studio, je vais rejoindre le scénariste avec qui on va essayer d'avoir des idées. C'est une série qui va être beaucoup sur moi et axée sur une femme de 30 ans musulmane en France et avec tout ce que ça incombe. Et j'ai jamais voulu penser à une série parce que pour moi, les gens qui écrivent des séries, c'est des stars. Donc moi, quand on m'a proposé ce projet de série, j'ai dit, bah, venez, on l'a fait sur quelqu'un d'autre, genre Laila Bekti ou Amel Bent. Je peux bien, je les connais, je peux peut-être écrire des trucs. moi, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas, on est en train d'essayer de bosser sur ça. Et après, moi, il y avait déjà deux films qui étaient enclenchés en écriture, donc c'est sur ça que je bosse aussi, en plus.
Votre frère, Eric et Ramzy, il est fier de vous, maintenant ?
Il est très fier, Eric. Maintenant, Ramzy, il est très fier. Franchement, ça a mis le temps. Et tant mieux, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Je n'en veux pas.
On va arriver aux indispensables de Culture Média. C'est un principe simple, aimer quelque chose et faire passer. Vous serez d'ailleurs invité à en faire de même. L'heure d'Autriche arrive pour nous parler d'un livre, mais d'abord, un petit coup de fièvre.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
C'est l'heure des indispensables, on va parler de langue française avec vous ce matin. Laure d'Autriche, bonjour.
Bonjour.
Plus particulièrement avec un livre consacré à l'étymologie, l'étude de l'origine des mots.
Oui,
donc.
Un livre qui vient de paraître, Étymologie pour survivre au chaos, écrit par l'italienne Andrea Marcolongo, qui est déjà l'auteur, il y a 3 ans, d'un best-seller sur la langue grecque. Ça s'appelait La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec, vendu en Italie à 200 000 exemplaires et traduit dans une 30aine de langues. Elle publie donc aujourd'hui ce livre dans lequel elle décortique 99 mots en revenant à leurs racines grecques ou latines, à leur signification originelle, du mot chaos à celui de langage en passant par solitude, jalousie, trahison. Alors vous découvrez ou redécouvrirez que les mots passion et patience ont la même racine.
Ah, on n'aurait pas dit ça, hein, passion et patience.
On croirait pas, mais et ouais. Pourtant elle explique que la passion réelle ne peut se vivre qu'avec de la patience. Vous verrez aussi que l'adjectif bizarre ne signifie pas étrange à l'origine, mais qu'il est dérivé d'une onomatopée bis 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 qui signifie être piqué au sang par une abeille ou un moustique.
C'est ça le showbiz alors.
Alors Andrea Marcolongo, elle estime que le langage qu'on utilise aujourd'hui est souvent approximatif, qu'on se contente souvent du plus ou moins. Et pourtant, dit-elle, lorsque les mots sont précis, eh bien la pensée, elle aussi, est beaucoup plus claire.
Je n'ai pas écrit ce livre pour juger ou condamner les langages contemporains, même pas les néologismes, parce que c'est un phénomène naturel de la langue, de chaque langue, à partir du grec ancien jusqu'à notre langue. Quand je dis et j'écris que notre langage est toujours un peu approximatif, c'est parce que quand on parle d'une manière approximative, c'est parce qu'on pense dans une façon moins nuancée. Donc, retrouver la précision dans nos mots, ça veut dire de penser plus précisément.
Plus clairement.
Oui, clairement.
Voilà, les mots précis qui sculptent la pensée. Intéressant, hein, ça paraît...
Ça a l'air bien.
Limpide, ouais, absolument. Ouais,
ça a l'air vraiment très bien. Sans doute, lorsqu'on remonte même à la racine de ces mots, eh bien forcément, on en apprend davantage sur leur histoire.
Ben oui, et l'histoire d'un mot, c'est effectivement l'histoire des hommes qui ont utilisé ce mot, qui l'ont utilisé, puis délaissé. Saviez-vous, par exemple, que le mot vin, finalement, le vin, on ne connaît pas l'origine de ce mot.
Le vin,
la boisson. Ce mot a tellement voyagé partout qu'il est impossible de savoir quel peuple a donné en premier un nom à ce breuvage. Intéressant. Cette passion pour l'étymologie, ça remonte à l'adolescence pour Andrea Marcolongo.
J'étais au lycée, j'avais 14 ans, j'avais commencé à étudier le latin, la langue grecque. Je me suis dit, mais écoute Andrea, ces mots ont l'air d'être... assez similaire. Et oui, ça m'a fasciné beaucoup parce que je dis toujours qu'étudier l'étymologie, c'est pas vraiment qu'étudier l'histoire d'un mot, mais c'est plutôt de découvrir l'histoire des gens qui l'ont utilisé le même mot pendant des siècles.
Voilà, alors Andrea Marcolongo a été il y a quelques années, c'est pas rien, la plume de Matteo Renzi, ancien chef du gouvernement italien.
Hein,
on sent vraiment dans ce livre et quand on échange avec elle ce goût évidemment profond pour la langue. Si ça vous intéresse, ça s'appelle donc Étymologie pour survivre au chaos, publié aux éditions des Belles Lettres.
Bah merci beaucoup Laure d'Autriche, ça donne vraiment envie hein, de lire ce livre, n'est-ce pas?
J'ai très envie là.
Et ça se lit très facilement, c'est vraiment très agréable à lire. Oui.
On va l'acheter.
Voilà. Mela Bédia, à vous de faire tourner, vous avez quelque chose à nous recommander là, on aime bien.
Moi je vais vous recommander d'aller voir tout simplement Noir et Blanche-Neige parce que je vais peut-être me lancer en politique donc je commence à être très démago.
Enfin un combo là.
Ouais, faut d'abord aller voir Blanche-Neige avec les enfants et puis on laisse les enfants à la maison on ouvre le gaz, on les laisse seuls. Et, je rigole. Non, et après, on va voir tout simplement noir.
Ouais. Vous, les mots deviennent vos outils. Je ne sais pas si c'est venu tôt aussi.
Si, moi, j'aimais bien les langues, j'aimais bien faire des jeux de mots. Je suis aux grosses têtes, donc par exemple, je suis désolée, hein, c'est RTL.
Il n'y a pas de problème.
Ah bon, il n'y a pas d'embrouille.
Non.
Ah, ok. Non, mais j'adore vraiment les vieux jeux de mots et tout. Je crois que j'ai 76 ans sur ça. Je ne vis pas du tout dans mon époque, mais j'aime bien, ouais.
Et les mots pour écrire tout, pour écrire votre...
Ouais, les vannes, moi j'aime bien, c'est marrant, j'en parlais avec ma productrice, j'aime bien quand ça rime, par exemple une punchline ou une vanne, j'aime bien quand elle rime, c'est très bizarre, ça doit être à cause de Diams, je pense, mais...
Exemple
Ah, vous me promenez de cours, là.
Non, si ça vient seulement.
Ouais. Bah, j'ai fait 2 mois de confinement. J'ai l'impression que j'ai tout perdu.
J'ai pas trouvé la rime, là. Ah bah,
confinement perdu. Attendez, c'est A-A-B-B-B. Non, A-B-A-B. Pour faire des rimes embrassées.
Écrire pour un one woman, j'ai pas l'expression en français, on peut dire seul en scène, mais c'est pas terrible.
Seul en scène, c'est quand c'est classe. Nous, le stand-up, c'est un peu le paillasson du spectacle vivant, c'est vrai. Hein.
Et il n'y a pas du paillasson en français Non, mais est-ce que je cherche une expression
Pour parler du stand-up?
Oui, pour dire one woman ou stand-up en français.
Bah, je crois que c'est one woman. Hein.
Ouais.
Ouais, hein. C'est un stand-up. Enfin, moi, j'aurais dit un stand-up. Mais ça revient à être du seul en scène. Mais si on dit ça aux vrais gens du théâtre de la Porte-Saint-Martin, ils vont être vénères. Donc, je dis stand-up, comme ça, je veux pas d'embrouille avec les gens qui rentrent à court et sortent à jardin. Quoi.
L'écriture d'un stand-up, c'est vraiment de la mécanique, non?
Ah ouais, c'est de la mécanique. Et puis, c'est un exercice où. Ce qui est bien avec le stand-up, c'est que tout de suite, il faut aller tester. C'est-à-dire que tu viens d'écrire ton 5 minutes, 5 pages, 10 pages, t'as plein de vannes en tête, t'as tout dans bloc-notes. Et tu sais que pour voir si c'est drôle, tu n'as pas le choix que de monter sur scène, te confronter à un vrai public, peu importe s'ils sont 4, 12 ou 900, tu vas tester tes vannes en fait, tu vas voir si ça fonctionne tout de suite. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est instantané en fait. Alors que le seul en scène, tu le bosses, tu fais une résidence, tu parles avec ton metteur en scène, tu bois de la Fiji Water, tout ça, et c'est compliqué. Non mais en tout cas, le stand-up, c'est que c'est instantanément, tu sais si t'es drôle ou pas drôle, tu sais si tu la rayes ou pas. Un seul en scène, t'as le temps de faire un an de tournée pour voir s'il fallait rayer le spectacle.
Ouais, mais il y a une vérité, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur un public différent, non? Oui, il y a un seul public dans la vie.
Non, c'est pour ça qu'il faut tester une fois, deux fois, trois fois, enfin, il faut tester plusieurs fois, mais moi je sais que je vais au Paname, c'est une petite cave, il y a 70 personnes. Si tu le fais 3 fois et que tu vois que ça rit, tu sais que t'as un hit, comme ils disent les jeunes, un tube. Et si tu vois qu'au bout de la 3e ou 4e fois c'est compliqué, bon bah t'essaies de si t'as vraiment envie de voir ce sketch, t'essaies de le retravailler au maximum. Mais en tout cas, il y a un truc qui moi me plaît, qui ressemble un peu à la boxe, de t'apprends chez toi, tu vas sur le ring, tu vois si ça marche. Enfin, il y a un truc d'apprentissage et de test que j'aime bien.
Et l'objectif, c'est vraiment de faire rire.
Ah ouais, moi c'est quand moi
même,
je trouve ça
quand même.
Je trouve ça génial de faire rire. Ouais. C'est trop bien. Moi ça me procure
toucher,
un plaisir.
Toucher, émouvoir, c'est pas le propos. Si, quand même
si,
un peu.
Si, parce que c'est caché derrière les gens qui essaient de faire rire, mais ouais, je trouve que faire rire c'est le truc le plus fédérateur qui existe au monde, c'est comme le football pour moi. Ça touche tout le monde partout, peu importe ta classe sociale, peu importe ton origine. Le rire c'est un truc qui vient, qui sort des tripes et tu ne peux pas te cacher.
Et là par exemple, vous pourriez dire allez PSG, ça se trouve.
Pour combien d'argent? Non, voilà, je peux pas dire allez PSG. Par contre, impossible. Je peux dire allez l'OM, si vous voulez, c'est aux couleurs d'Europe.
Ça, j'ai bien compris. C'est vrai. Allez, Mela Bidia, on revient encore pour quelques minutes dans Culture Média. Belle matinée à vous.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
On parlait fièvre, prise de température avec Mela Bidia, qui, je vous le rappelle, est hyper, hyper hypochondriaque. Comment se présente votre été?
Dans 2 semaines, je vais rejoindre le casting d'un film. On va tourner 2 mois en Belgique, qui s'appelle La Classe Internationale, de Frédéric Kering. Et c'est avec Audrey Fleurot. Et c'est mon premier rôle quand on a pensé à moi sans que je l'écrive. Parce que Ford, je me suis écrit un rôle, personne n'avait calculé que j'existais. Là, c'est vraiment un réalisateur que j'aime bien qui m'a appelé, il m'a dit viens jouer une prof de français.
C'est la première fois qu'on vous demande comédienne, en fait.
Ouais, comme vraie femme comédienne, et pas du tout la grosse de service, la banlieusarde avec l'accent Kaira, l'humoriste. C'est la première fois, et je me dis...
Ouais, pour l'instant, c'était que ça.
C'était beaucoup ça. Après, moi, ça me plaisait de jouer ça au début, quand même. Je sais que c'était le jeu. Mais après, on commence à grandir et se dire que si, ce serait bien qu'on évolue, quand même.
Et c'est ça, votre envie actuelle du cinéma, ça vaut ça...
Ouais, beaucoup la scène, c'est la scène. Moi, mon vrai challenge, c'est le plus dur. Donc, c'est ça qui me plaît le plus. Mais le cinéma, j'ai adoré le pouvoir avoir... Parce que j'ai eu un vrai luxe d'écrire une histoire, de la développer et de la tourner, et puis qu'elle sorte, quoi. et de choisir une Valérie Lemercier, c'est une chance inouïe, c'est un honneur. Donc je vais continuer de développer mes petites idées, et puis ça prendra le temps que ça prendra, et puis on fera les films, et un jour ça sortira peut-être au cinéma, parce que moi je suis pas sortie au cinéma encore.
Ah ouais, il y a cette frustration-là quand même. Ouais.
Quand on écrit un film pendant 3 ans et qu'on se dit qu'il va sortir au cinéma, s'il y a un pangolin qui passe par là, t'as le seum quand même, tu te dis waouh.
Parce que la plateforme, bon, c'est bien, c'est efficace.
Je trouve ça génial.
Mais
c'est efficace, par contre.
Ouais. Mais les salles quand même.
Bah, c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense. Et puis je pense à tous ces exploitants. Moi, j'ai fait plus de 70 avant-premières avant d'être confiné. Pour Forte. Et ça marchait bien. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces exploitants, ces directeurs de salles, ces directrices de salles. Et c'est horrible, parce que c'est en train de tuer un peu tout le monde. Et ça me fait beaucoup de peine pour la culture et aussi beaucoup pour ces gens que je suis allée voir, qui m'ont hyper bien reçu.
Fat and Furious, c'est terminé ou ça va vivre encore?
Non, ça va vivre encore, on n'a pas fini.
Ouais.
Je pense qu'on va reprendre, mais en janvier, quoi, si les salles nous le permettent, si la crise sanitaire nous le permet.
Il aura évolué d'ici là, ou alors c'est écrit et ça bouge plus?
Non, mais vraiment, je fais pas partie de ces gens-là. Ouais. Par exemple, Le Mercier, dont je suis très proche aujourd'hui, c'est devenu ma BFF.
BFF.
Best fucking friend.
Ah, d'accord.
Voilà, pardon, j'ai
non,
dit
non,
le F-word. Mais non, en vrai, c'était vraiment mon coach dans Forte. Et c'est devenu mon coach dans la vie. Elle m'apprend trop de trucs, elle a redécoré chez moi. Parce que moi, j'avais du jonc de mer au sol. Elle m'a dit que c'était hors de question. Donc vraiment, elle a refait les travaux chez moi et tout ça. J'adore Valérie Lemercier. Et elle m'expliquait qu'elle avait même une oreillette sur scène. Et que elle, pour elle, le texte, c'était le texte. Une virgule, elle m'a dit, quand elle est venue voir en spectacle, elle m'a dit, quand un mec tousse ou le téléphone sonne, je n'interromps pas mon spectacle. C'est inimaginable.
Très écrit.
Il n'y a rien qui bouge. Elle n'a jamais voulu capter ses spectacles pour pas qu'on puisse les revoir. Moi, je suis dégoûtée, j'ai rien vu d'elle. Mais voilà, donc moi, je fais partie de ces gens qui ne respectent pas le texte. Voilà.
Merci beaucoup, Mela Bédia, d'être passée dans Culture
Média.
Faut
que vous refassiez l'émission.
Laquelle?
De Canal+.
Ah, vous croyez?
Ouais, moi je mets de l'argent. J'ai au moins 200 euros à mettre dessus. 250, je peux monter.
C'est un bon début alors, on va voir. Merci à vous, Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains sera mercredi prochain dans les salles
mercredi
et puis tout le reste. Merci.
Merci
première
beaucoup.
Page maintenant, il sera dans les librairies le 19 août et il est déjà dans votre oreille. C'est le nouveau livre de François Beaune qui s'appelle Calamity Gwen chez Albin Michel. Lundi 5. Si Dieu était vraiment amour, les gens continueraient d'y aller à la messe. Et si Dieu était sexe, alors là, tous les jours. Mousse, des fois, j'ai l'impression qu'il se prend trop pour Dieu. Il pense que je l'attends, qu'un jour je vais avoir la grosse révélation. Moi, la brebis perdue, lui, mon étoile du sud. Je suis sûre qu'il y croit en plus. On est tous avec toi, Mousse. On aimerait tous que tu saches à ma place qui est bon pour moi. Je te promets, ça m'épargnerait de souffrir pour rien. Mardi 6. Maurice est repassé aujourd'hui, un soumis qu'on voit souvent de cette clientèle fidèle, presque familiale, je dirais. Le Pigalle, 3 ans que j'y suis maintenant. Un sex shop plutôt chic, beaucoup de femmes aussi. Mais quand même, si tu crains l'aventure, je recommande pas. Maurice, comment le décrire sans être méchante? Il est horrible à voir. Un petit rouquin tout lâche, avec une tête... Eh ouais, on s'arrête au milieu, c'est le principe. Première page, Calamity Gwen de François Beaune chez Albin Michel. Et vous pourrez le trouver en entier, en papier, le 19 août. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec notamment le comédien Jonathan Lambert. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Bonne journée, bonnes vacances. Je ne vous embrasse pas, à demain.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.